Dans ce qu'on a prévu comme déroulé, il y a l'idée qu'on ne dépasse pas une heure pour ce travail de mise en commun, de problématisation. C'est un travail difficile. Ce que je vous propose, c'est que on essaye de que chaque groupe puisse dire quels sont les éléments un peu saillants de la discussion que vous avez eue, et puis que nos collègues universitaires réagissent comme ils l'entendent et qu'ils prennent la main comme ils le souhaitent, en fonction de ce qui leur semblera pertinent pour faire avancer la discussion. De manière à ce qu'on ne prenne pas trop de temps, mais ce moment-là, il me semble assez essentiel pour essayer qu'on comprenne à la fois toute l'hétérogénéité de votre groupe, mais que bien que votre groupe soit hétérogène, on peut quand même faire classe, on peut quand même arriver quelque part ensemble, bien qu'on soit très différents. C'est toujours un peu un défi, hein. Est-ce que par hasard un groupe aurait le courage de pouvoir commencer? Merci. Il doit y avoir un micro. Simon, est-ce que tu peux ou Jérôme, est-ce que ça sera plus confortable pour chacun? Puis comme c'est enregistré, c'est mieux parce que ça nous permet de garder trace.
Bien, donc le premier point qu'on a abordé concernant les possibles, donc c'est le travail par rapport à la vidéo et donc que ça apporte un regard sur sa propre pratique, ce que les enseignants n'ont pas l'habitude de se voir faire classe. Le deuxième point qui nous a paru important, c'était l'observation de pairs, c'est-à-dire observation d'enseignants qui ont les mêmes problématiques, quelquefois les mêmes niveaux, voir donc leurs collègues faire classe. Le troisième point, c'est que sur le site donc, de Néopass, on a l'occasion de voir des enseignants qui soient débutants ou expérimentés se prêter au jeu de l'analyse, alors que quelquefois les enseignants qui sont expérimentés n'ont pas forcément envie de se mettre en danger. J'espère que je relate bien ce qu'on a dit. Ça permet de cibler des problématiques. Donc c'est vrai qu'on voit à travers les différentes vidéos qu'on a donc des problématiques qui nous parviennent et qui elles sont bien mises en évidence, quoi. Et puis un dernier point sur l'intérêt qu'on a trouvé, c'est que ça réinterroge notre métier de formateur. C'est-à-dire qu'on se disait qu'on n'interviendrait pas de la même façon après avoir vu ces vidéos. Enfin, le collègue donc, disait que ça permettait d'être peut-être plus sur l'idée d'un accompagnement de l'enseignant dans son activité, de l'endroit où il en est à quelque chose d'autre, plus que dans une certaine forme de prescription à la fin de l'entretien. Qui ferait qu'on veut l'amener un petit peu trop loin, peut-être par rapport au possible du moment, quoi. Sur les points positifs, voilà ce qu'on avait relevé. Ensuite, bien sûr, on avait trouvé des difficultés. C'était d'ailleurs ce par quoi on avait commencé. Donc, les difficultés qu'on a relevées, c'est le problème de l'image, c'est-à-dire qu'on peut arriver à une déshumanisation de la formation si on en reste à ce niveau-là, c'est-à-dire que les enseignants puissent regarder des vidéos et puis ne pas être accompagnés. Ça peut être aussi une dérive vers l'auto-formation sans accompagnement. Le deuxième point, c'était forcément la difficulté qu'il y a adéquation entre les ressources et les besoins. Voilà ce que l'ensemble des vidéos présentées peuvent correspondre aux besoins de formation, à tous les besoins de formation. Il y avait aussi la manière dont on pouvait utiliser la plateforme. Si ce n'était pas accompagné, ça pouvait avoir un effet modélisant. Oui, le fait de naviguer ou pas sur les différents, de manière horizontale et verticale, suivant comment on l'utilise, effectivement, si on ne va pas voir les points de vue des chercheurs, les points de vue des expérimentés, on peut naviguer uniquement verticalement et en rester sur un point de vue modélisant. Le problème qu'on avait soulevé aussi, c'était celui de la temporalité dans la formation. C'est-à-dire que les enseignants peuvent avoir des besoins qui soient un peu dans l'urgence. Et finalement, l'accompagnement qui peut être proposé se voit peut-être sur un plus long terme. Donc du coup, est-ce qu'on va pouvoir les aider finalement si on ne répond pas dans l'urgence ? Ou comment, en tout cas, eux, ils vont voir aussi la formation si on ne répond pas dans l'urgence à leurs besoins ? Ensuite, une dernière difficulté, parce qu'on avait mis aussi 5 points, ça fait un équilibre, c'était comment est-ce qu'en tant que formateur, on pouvait conclure une formation qu'on avait pu mener avec cet outil, conclure par une analyse réflexive pour les participants. Et ça, c'est vrai que ça nous paraissait pas évident d'arriver à partir des situations qu'on avait proposées en formation, d'arriver à une sorte de cadre d'analyse qui permette à tout le monde de continuer sa réflexion par la suite. Alors, je ne sais pas si c'est extrêmement clair ce que je dis, mais voilà.
Je prends le risque d'écrire ce que je comprends. S'il s'avérait que d'aucuns me disent c'est pas du tout ça qu'il a dit, tu devrais reprendre plutôt comme ça, ça fait partie du jeu.
D'accord. Donc je sais pas si j'ai bien traduit, si vous voulez ajouter quelque chose.
Merci. Est-ce que, donc voilà, pour les collègues universitaires, là, si vous avez envie de réagir, vous faites comme vous voulez, quand vous voulez. Un autre groupe ? Merci. Donc je vais essayer de compléter les points, je vais noter en vrac, je ne vais pas noter groupe par groupe. Hein. Je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'on constitue le corpus ensemble, et éventuellement peut-être qu'on va avoir des points de friction, de controverse, de désaccord, et on les identifiera chemin faisant.
Alors la réflexion de notre groupe s'inscrit bien sûr dans une perspective de faisabilité et de problème au niveau de la communauté française de Belgique et de sa structure du système éducatif. Alors comme point positif, ce qui est ressorti pratiquement à l'unanimité dans notre groupe, c'est que l'outil qui est Neopass pour les formateurs propose aux formateurs un matériau qui est issu de l'activité réelle. Et donc, ça je pense que c'est son principe même, Neopass, mais c'est aussi son atout essentiel, parce qu'il a le double avantage de briser le sentiment d'isolement que ressent souvent l'enseignant, et lorsque ça se passe mal ou qu'il est dans des conditions difficiles de faire classe, eh bien, il a la tendance au repli sur soi, et il a cette tendance à se croire seul, à souffrir. Et donc, il y a ce phénomène qui l'amène à briser ce sentiment d'isolement. Et, par effet induit, je pense que le regard qu'il porte sur le formateur qui vient avec l'outil Neopass s'en trouve automatiquement modifié. Le formateur n'est plus le dépositaire de la solution, puisque je pense qu'on arrivera tous à la même conclusion qu'il n'y a pas de solution. Et je pense que c'est une façon d'organiser la formation de manière plus harmonieuse. Permet aussi également, grâce aux vidéos successives, de mesurer, de faire prendre conscience que les progrès sont possibles, puisque en Belgique, enfin en partie francophone, je pense que dans les 4 ans, une grande majorité des enseignants quittent le métier. 40% des enseignants quittent le métier après 4 ans de pratique.
Il faut dire qu'en communauté française de Belgique, il n'y a pas de concours de recrutement de fonctionnaires et que les enseignants, lorsqu'ils ont leur diplôme en poche, vont faire leur marché pour être embauchés dans une école qui fait partie d'un des 4 grands réseaux qui constituent les écoles et les établissements d'enseignement en communauté française de Belgique.
D'où une réflexion intermédiaire entre le positif et le négatif qui nous a amené à dire que l'outil serait extrêmement intéressant pour la formation initiale. Hein, c'est vraiment c'est un outil qui n'est pas représenté ici aujourd'hui. Donc, alors passons au point peut-être aux difficultés qu'on pourrait rencontrer dans l'utilisation de l'outil chez nous. Dans cette salle sont présents essentiellement des formateurs au niveau disciplinaire. Donc, Non,
dans leur groupe.
Dans notre groupe. Notre groupe. Excusez-nous.
Ça, c'est le problème de quand on ne parle pas groupe. Tout à fait la même langue, hein, c'est un problème.
Voilà. Donc, dans notre groupe, autour de la table, il y a essentiellement des formateurs. Vous voyez, la richesse de l'enseignement en Belgique, c'est ça. Hein chers compatriotes, bonjour. Et donc, autour de cette table, donc, il y a essentiellement, et d'une autre table, je pense, il y a essentiellement donc, des formateurs au niveau disciplinaire. Or, si j'ai parcouru le thème 1 et le thème 2, et donc le thème 1 est, aborde une problématique qui est essentiellement relationnelle et comportementale, et le thème 2 aborde des problématiques qui sont pédagogiques au sens transversal, au sens large, parce qu'elles sont probablement transférables dans bon nombre de disciplines. Et donc, voilà, comme il n'existe pas au niveau du réseau que je représente de formateurs, il n'y en a pas beaucoup en tout cas, de formateurs de type transversal, ça pourrait représenter une difficulté quant à l'application de NeoPass, quant à l'utilisation de NeoPass. Voilà, je pense avoir pas trop vexé les collègues belges qui étaient à l'autre table et voilà. Et avoir rendu compte de ce qui avait été le fruit de nos réflexions. Dites-moi si j'ai...
Monsieur Ria.
Merci. Simplement pour deux éléments d'information sur, en tout cas, votre analyse, que je partage pleinement, et que je vais pondérer en tout cas en deuxième point. Il me semble tout à fait intéressant, dans le domaine francophone, et notamment, ça va être un des enjeux de la chaire UNESCO, d'envisager une... internationalisation de NeoPass en ayant par exemple des thèmes professionnels qu'on pourrait voir se déployer dans d'autres pays. Je pense notamment à la mise au travail qui correspond au premier thème. Vous avez compris que le premier thème, c'est pas simplement l'entrée dans la classe, mais ça dépasse largement cette problématique-là. Et c'est très intéressant de voir les différences culturelles, de voir le poids de l'histoire culturelle dans chaque pays. Et ces pas de côté nous intéressent aussi, nous, en France, pour arriver aussi à décaler nos propres doxas dans la façon de faire le métier. Le deuxième point, c'est vrai que on est sur une ligne analyse du travail avec cette idée que la priorité, c'est la priorité à l'activité novice et que les enjeux de didactique sont contenus dans cette activité novice. C'est pour ça qu'on englobe, et en tout cas c'est un présupposé fort de l'ensemble des chercheurs qui ont travaillé sur cette problématique-là et sur cette plateforme. Alors je crois qu'après, effectivement, vous pouvez être frustré dans un premier temps par rapport à des approches un peu généralisantes où on essaie de repérer des invariants du débutant. Mais après, je crois qu'il faut que chacun puisse, à la lumière de sa didactique personnelle, scientifique, etc., retravailler la thématique, compléter avec peut-être d'autres vidéos, d'autres apports. Donc là, je crois qu'on a vraiment l'intention qu'il y ait du dialogue entre la didactique professionnelle et les didactiques. Enfin, en tout cas, c'est pas tourner le dos aux enjeux de savoir. Et je terminerai simplement le premier thème. Ça peut paraître complètement invisible, alors c'est nous qui n'avons pas été très très bons, mais quand vous regardez de l'activité 1 de Romain en tout début jusqu'à l'activité 6, ce qui est très manifeste, c'est l'absence de savoir mobilisé dans l'action au début, et progressivement la réintroduction des savoirs, dans un premier temps un peu instrumentalisés à des fins de contrôle, et vers des situations de plus en plus pertinentes didactiquement. Donc là, je crois qu'il faudrait peut-être reprendre à nouveau frais ces enjeux didactiques pour faire une formation avec des débutants et leur montrer comment l'absence ou au contraire la saillance des savoirs va jouer dans des questions de tenue de classe a priori. Oui, pour essayer de casser un peu ce dilemme contrôle-enseignement. J'étais trop long, pardon.
Groupe suivant, merci. On est bien au niveau des temps. Lorsque tout le monde aura rapporté, on pourra rentrer éventuellement un peu plus dans le vif hein, de controverses ou d'analyses.
Avant de commencer, on s'est posé la question, est-ce qu'avec NeoPass, on travaillait sur des situations réelles, dans la mesure où on analyse une vidéo. Voilà. C'est une question auquel on n'a pas répondu, mais on n'était pas tous d'accord. Ce qui nous a semblé très positif, c'est que cet outil nous permet en tout cas une conscientisation Et donc une prise de conscience, c'est un peu ce qu'ont dit les groupes d'avant, donc je ne m'étends pas. Et on s'est bien dit que c'était un point de départ, dans la mesure où on ne pouvait pas en rester là. On a utilisé des mots comme situation pathétique, domestication, etc. Ça veut dire que c'est bien un point de départ et que ça supposerait qu'après, il y a d'autres outils. Voilà.
Vous en avez parlé de ces autres outils ou c'est resté évanescent dans votre groupe?
C'est un souhait, ouais. Enfin, on n'a pas beaucoup, on n'a pas eu le temps de beaucoup d'en parler, on a abordé beaucoup de choses. Ça revient sur quand même l'idée de l'auto-formation. Par exemple, quelqu'un qui voudrait se former avec ça, ça pourrait être un petit peu, du coup, difficile, seul. Voilà. On s'est dit que dans l'enseignement, il y avait un engagement de la personne. Et qu'ici, on voyait des actions, un espace, mais peut-être qu'on pourrait avoir une vidéo avant, avec le prof qui dit son intention, son projet. Et puis même, on pourrait avoir un film après qui reprend le même film, mais avec dans sa tête des petites bulles qui disent ce qu'il pense. Pour qu'on ait un peu le commentaire même, voilà, par la personne elle-même. Et puis on a aussi dit que les jeunes profs, ils voulaient un peu un kit de survie. Donc il y a aussi un danger à proposer des outils. Mais c'est donc l'inverse de ce que je vous dis tout à l'heure. Voilà. Et puis on a dit qu'il y avait aussi un nombre limité de vidéos à disposition, en tout cas en ligne, en ce moment. Voilà.
Merci.
Oui, voilà, ça va être un peu difficile. Déjà, beaucoup de choses ont été dites, donc excusez-moi pour les répétitions. Nous sommes aussi une table belge.
On vous en veut pas.
Aussi des répétitions. Alors, première chose qui est vraiment importante pour nous, c'est que dans notre institut de formation, nous n'avons pas le droit d'aller dans les classes. Et donc, vous nous fournissez un outil qui nous permet de pallier cette limite à notre travail. Votre outil, par ailleurs, pour certains formateurs chez nous, mériterait des aménagements. Par exemple, nous avons, nous, dans notre institut de formation, une formatrice qui s'occupe de l'enseignement de promotion sociale. Donc un enseignement...
Ça s'appelle l'enseignement professionnel chez nous.
Destiné à des adultes après... Non, non, après l'obligation scolaire. Donc c'est l'enseignement adulte.
D'accord, pardon.
Voilà. On se disait aussi que certaines vidéos présentées dans les journées que nous réservons aux professeurs débutants pourraient provoquer des petits chocs parce que certaines vidéos sont de nature à entrer en conflit avec des représentations véhiculées par la formation initiale qu'ont reçu ces enseignants. Et encore plus important, pour les enseignants qui n'ont pas reçu de formation professionnelle du tout.
Est-ce que vous pourriez illustrer, par exemple, par quelque chose qui vous a fait penser ça? Par exemple, cette vidéo, elle montre ça, et donc c'est plutôt en opposition.
Mais vraiment, mettre l'accent sur les difficultés d'une manière aussi presque émouvante, parfois. Je crois que c'est quelque chose qui n'est pas souligné dans les écoles, en formation initiale. On a des modèles qui ne sont pas ancrés forcément dans le réel. Et ici, on est quand même... Bon, certes, est-ce que c'est du réel puisqu'il est coupé, il est séquencé, mais il y a quand même un choc et le choc de l'image. Comme on a dit tout à l'heure, nous sommes des formateurs disciplinaires et donc on aurait envie d'aller plus loin dans chaque discipline. Il nous semble aussi, comme cela a déjà été dit, que cette plateforme nécessitait un accompagnement, qu'à elle seule, elle ne pouvait pas suffire. Mais quel était son point positif? Elle était de nature à amener en simplicité les jeunes enseignants qui ont des difficultés à venir demander de l'aide. Parce que dans notre institut, ce que nous remarquons aussi, quand nous organisons des journées de formation destinées à ce public-là, ils ont beaucoup de mal à venir, à admettre ou à reconnaître leurs difficultés, et sans doute que leur environnement dans les écoles ne les y pousse pas. Les professeurs chevronnés ne sont pas toujours très empathiques avec ces enseignants. Ce qui nous semble aussi intéressant sont les concepts peu nombreux, mais vraiment très opérationnels, qu'on peut tirer de cette plateforme, comme les gestes robustes, l'acuité réflexive, et ça, ça peut traverser notre pratique à tout instant. En conclusion, comme l'a dit l'une d'entre nous, c'est un outil triple de réflexivité, de professionnalisation et de modélisation, mais qui a cet avantage qu'il pourrait être croisé avec des grilles de fonctionnement personnel de chaque enseignant.
Voilà. Vous pouvez nous préciser ce que vous appelez des grilles de fonctionnement personnel ?
Mais c'est-à-dire que dans ce qui est abordé sur la plateforme et dans notre discussion, c'est finalement des pratiques de classe X dans un environnement Y et avec des développements ou non-développements de capacités et de compétences des élèves. Mais nous avons quand même tout un chacun, que ce soit l'élève ou le prof, mais en l'occurrence ici le prof, on a quand même notre propre grille de valeurs et de croyances et des rôles que l'on se donne. Ce matin, je ne sais plus qui a un petit peu abordé les rôles, mais donc en fonction de nos rôles, de nos croyances, de nos valeurs et des missions que l'on se donne au sein d'une école et de ce que l'on va mettre en application, mais effectivement, les dispositifs de NeoPass doivent être croisés avec cela. Parce qu'on vient avec des demandes et des besoins bien particuliers en fonction de nos propres attentes et en fonction de notre propre fonctionnement. Et donc, à un moment donné, on doit se poser la question, comment mettre les choses en parallèle? Et à un moment donné, on doit dépasser ce parallélisme. Ben voilà, je ne sais pas si j'ai été clair.
Ben, je ne sais pas, ce n'est pas moi qui réponds. Merci. Toujours pas de réaction de nos universitaires qui se réservent pour tout à l'heure. Oui, Luc se retient. Je signale à ceux qui ne le connaissent pas qu'il se retient énormément.
Bon, j'ai pris le micro.
T'as pas le droit
pour essayer de, du coup, d'essayer de reprendre ce qui a été dit dans le groupe auquel j'ai participé, puis essayer de dire un tout petit mot en plus, mais pas beaucoup plus.
Tu peux juste dire qui tu es, Guillaume,
pardon, parce que tout le monde t'a pas... Tu l'as dit, qui j'étais, tu as dit Guillaume. Donc Guillaume, Guillaume Serre, IUFM d'Auvergne, Clermont-Ferrand. Alors...
Qui travaille actuellement avec Roland Guagou sur une ressource qui s'appellera soit maternelle, soit l'arlésienne, ça dépend de... Mais normalement, ça va s'appeler consignes et rituels en maternelle. Là, vous avez... non, merci pour la preuve que vous venez de lui donner. On a 18 mails par jour qui nous disent c'est quand la maternelle. Non, ne pars pas, Guillaume.
Je ne devrais pas prendre le micro, être en train de travailler à finir cette arlésienne. J'ai cette ressource-là à vous proposer, puis j'ai un beau master à vous proposer aussi, si vous voulez, à côté, à destinée à des formateurs. Je vais commencer par quelques éléments qui me semblaient intéressants de pointer par rapport aux habitudes de fonctionnement. C'est-à-dire que les gens qui sont autour de la table sont plutôt des formateurs, sans rentrer dans la distinction, qui ont vraiment des façons de faire déjà, des habitudes. Et du coup, l'introduction de la vidéo suppose des changements plus ou moins faciles à faire. Et donc, il y a quelques éléments d'introduction autour du fait que la vidéo reste un moyen. Voilà, et que ça ne résout pas les... En tout cas, ça pose toujours la même question et les mêmes habitudes à concevoir des dispositifs de formation à partir d'objectifs bien précis. Et que ça pose toujours la question de savoir à quel moment... Enfin, encore plus peut-être, pour le coup. C'est d'autant plus difficile de concevoir des dispositifs de formation que ces dispositifs intègrent la vidéo et que du coup on se demande à quel moment on les utilise, ces dispositifs comprenant de la vidéo. Voilà. Peut-être qu'un dispositif traditionnel est peut-être plus facile à inscrire dans le temps qu'un dispositif qui contient de la vidéo. Quelques éléments d'introduction aussi sur le fait que ces vidéos pouvaient être tout à fait utiles et intéressantes. Ça se sentait de l'éprouver dans les moments de collectif, c'est-à-dire dans les moments de formation collective où le fait de présenter une vidéo faisait qu'on avait un vécu commun à partir duquel on pouvait travailler. Donc l'intérêt, le point fort qui pouvait être peut-être en rupture avec les habitudes, et là pour le coup ça semble être un levier intéressant pour les formateurs autour de ma table, c'est que ça pouvait très vite constituer un objet commun de discussion, et surtout pas un objet réel, mais un objet fictif pour le coup. Voilà. Et là, on voit vraiment que entre il y a un travail autour des mots à faire entre le réel, le vécu, la fiction de la vidéo, etc. Donc ça, on pourra peut-être en dire un autre petit mot, mais plus tard. En tout cas, c'est quelque chose qui a été en discussion dans mon groupe avant même de pouvoir commencer à discuter. Voilà. Ensuite, peut-être 2-3 éléments. Le fait que si on utilise la vidéo comme un moyen, comme un autre, de faire de la formation, il y avait quelque chose qui était d'autant plus nécessaire d'avoir lorsqu'on utilise la vidéo, c'est une grille d'analyse. Donc, du coup, quelle grille d'analyse ? Voilà. Dans quel sens ? Quelle conceptualisation derrière ? Quelle grille pour analyser ces vidéos ? Quelque chose qui gêne les habitudes des formateurs, c'est le fait de ne pas retrouver les supports à partir desquels ils travaillent habituellement, que sont les productions des enfants et les fiches de préparation. Voilà. Alors l'hypercentration sur le temps de la classe, comme un temps sur lequel il y a des choses à comprendre, bien sûr, mais que peut-être il y a des choses à comprendre qui se font en amont de ce temps de classe et après ce temps de classe. Donc voilà, quelque chose qui interrogeait beaucoup les formateurs, c'est le fait de ne plus avoir les supports qui sont quelque part les points de départ à leur action traditionnelle de formation. Donc les productions d'élèves, les cahiers d'élèves, les traces d'activité de l'élève, etc. Donc du coup, voilà, c'est vrai qu'il se disait qu'il pouvait y avoir un effet de centration sur l'activité du professeur. Et les formateurs faisaient référence au fait que les débutants, notamment, étaient déjà très centrés sur leur propre activité et que du coup, c'était d'autant plus difficile de les centrer sur l'apprentissage des élèves à partir de ce support-là. Voilà. Donc du coup, ils ont besoin de trouver des façons de réinvestir cet objet privilégié qu'est l'apprentissage des élèves à partir de l'outil qui est proposé. Je finirai juste sur un point. Qui a interrogé, c'est les avantages et inconvénients de travailler soit à partir des réussites, soit à partir de situations un peu problématiques, ou des situations qui montrent qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Voilà. Donc jusqu'où est-ce qu'on peut, enfin, quel est l'intérêt de travailler à partir de réussites, que ce soit des réussites de débutants ou de plus expérimentés? Et quel intérêt de travailler à partir de situations un peu ratées? Et souvent, c'est des situations, bien sûr, qui sont présentes du point de vue des débutants. Voilà. Il y aurait peut-être d'autres choses à dire, mais...
Merci. C'est bien ça que vous avez dit dans le groupe, il ne vous a pas trahi?
Non.
Ouais, il est fort, hein?
Gentille. Moi, sont gentilles. C'est toujours à moi que ça arrive, choix. Ça marche. Alors, comme on passe en dernier, ils avaient prévu, on avait prévu de parler de grille d'analyse aussi, hein, parce que aussi se poser la question par rapport fictif réel dans la classe, ce qu'on en montre, même des exemples de personnes qui ont expérimenté avec l'entrée avec le travail, la vidéo sur Romain, qu'une enseignante a dit que ça c'est pas vrai, que c'est pas possible dans une classe. Donc même en montrant une vidéo, le réel n'est pas réel pour tout le monde. Donc ce travail par rapport à la vidéo. Aussi notre problème, notre écueil, c'est par rapport au temps. Nous en formation, on va parler de visite en classe et après d'analyse à chaud. Et quand on a la vidéo, on a la chance de pouvoir avoir une temporalité puisqu'on suit l'évolution de l'enseignant. Débutant quelques mois après, et on a des retours sur son analyse et sa progression dans le métier. Donc ça, c'était un point fort de l'outil vidéo par rapport à ce qu'on avait dans la formation avec les visites de classe, toujours sur un temps de travail limité et une analyse souvent à chaud. Après, par rapport à l'outil vidéo, dites-moi, mesdames, si je trahis votre pensée. Par rapport à l'outil vidéo lui-même, se poser le problème de nous, ce qu'on y voyait, de ce qu'y voyaient les enseignants débutants, et de voir que nos parcours se croisaient ou pas forcément, hein, et donc comment quel outil adapter, quelle grille avoir pour pour être centré sur le même objectif, avoir la même, le même travail, hein, et quelles problématiques on va cibler à partir de ce travail. Après la vidéo, on avait parlé aussi de peut-être à quel moment la placer. C'est pas une séance de télé, on va pas regarder un film, voir la même vidéo vue en début de ce travail et vue en fin de séance, peut-être je sais pas avec le même axe de vision et avec des outils cette fois-ci d'analyse, hein, savoir sur quoi on a centré le travail pour permettre aux débutants d'avoir identifié des gestes professionnels et puis qu'ils puissent après se les approprier dans un second temps. Voilà par rapport à la vidéo. Moi, je ne sais pas. Est-ce que vous avez des choses à ajouter? Non. Tout a été dit. C'est vrai qu'on avait repris les choses qui ont déjà été dites pendant les autres groupes. Donc, le souci, c'était d'avoir une analyse conjointe, hein, ce qu'on disait. C'est que pas chacun suit sa piste. Et puis on peut se rencontrer par moment. Et puis, nous, on est parti avec notre objectif. Et moi, je parle d'étudiants, mais vous, des stagiaires, ils sont repartis avec autre chose. Donc, co-construire, on va dire. Quels outils pour co-construire? Donc, la place du formateur par rapport à ses attentes. Est-ce que ce qu'il propose?
Alors, merci. Il nous reste 25 minutes sur cette phase-là qui vont nous permettre de revenir, de commencer à réorganiser, de voir si on est tous d'accord ou si on a des choses qui semblent plus compliquées. Donc, Christine, tu diras qui tu es.
Donc Christine, ex-Marseille Université, et donc avec Laurence, j'ai conçu et mis en œuvre ce thème 2 sur aider les élèves. Alors moi je voulais juste peut-être qu'on relance le débat ou la question sur les questions qui étaient abordées par nos amis belges sur la question du disciplinaire, en disant que finalement dans cette plateforme... Alors, en reprenant aussi un peu cette idée, à savoir que le thème 1, alors vous avez dit, c'est plutôt quelque chose qui est de l'ordre relationnel et pédagogique, et le thème 1 et le thème 2 seraient plutôt des questions pédagogiques transversales. Voilà, la table avec laquelle aussi je travaillais, il était aussi question de cela, à savoir que finalement c'était des gestes transversaux, fort intéressants, mais finalement où la question disciplinaire était relativement absente, ce qui posait quand même un certain nombre de questions. Moi je trouve ces remarques assez intéressantes parce que parallèlement à cela, qu'il s'agisse des deux premiers thèmes ou des suivants, il s'agit d'enseignants du second degré et du premier degré. Dans le cas du premier degré, ben évidemment, les enseignants enseignent une discipline, hein, ils sont bien en cours. Et dans le premier degré, ce sont tous des enseignants disciplinaires. Par exemple, ici, Claire est professeure de mathématiques. Et ce que je trouve assez intéressant, c'est que justement, c'est aussi comment nous, en tant que formateurs, on est amenés à faire une lecture de la situation de classe. Et ça, je crois que depuis qu'on travaille tous ensemble, y compris dans le groupe scientifique, hein, qui a permis de concevoir cet artefact de formation, eh bien, très souvent, il nous arrivait de dire « Bon, et alors, tu nous montres cet extrait, ben, qu'est-ce qu'il y a à voir ?» Et je trouve ça enfin assez intéressant, et là, ça conforte un petit peu mon questionnement en vous écoutant, c'est que finalement, même quand on est des experts de situation de travail en classe, eh bien, la technicité de lecture de ce qui se passe en classe n'est pas acquise une fois pour toutes. Et donc, ça suppose probablement qu'on se pose aussi des questions dans ce sens, à la fois au niveau des formateurs et aussi de ce qu'on va travailler. Tout à l'heure, vous parliez de formation initiale. Il me semble que c'est un des premiers éléments, hein, à travailler. Comment on lit, finalement, une situation de travail et qu'est-ce qu'on peut y voir? Et là, pour avoir travaillé, je fais pas ma maline, hein, parce que, bon, voilà, Claire, elle est prof de maths. Il a fallu vraiment... avec Laurence, qu'on aille travailler avec des didacticiens des maths, avec des formateurs de maths, avec des profs de maths, pour qu'ils nous disent, non mais attends, là, il se passe ça, ça et ça. Pourquoi? Parce que finalement, dans le discours de Claire, eh bien, il y avait des finesses mathématiques et des finesses dans sa capacité à finalement à maîtriser des éléments, des nombres relatifs, puisque c'est de ça dont il est question, qui nous avaient totalement échappé. Et là, je crois que... Et du coup, en réécoutant nos propres vidéos que nous avons montées, hein, on a redécouvert, dans notre propre travail, que les néos qui regardent le travail de Claire, lorsqu'ils ne sont pas profs de maths, ils sont aussi très impactés par, je dirais, le registre émotionnel, c'est-à-dire ils sont impactés par l'activité empêchée de Claire, empêchée de travailler, empêchée de transformer les savoirs qu'elle a travaillés en formation et en faire usage dans cette classe avec des élèves très difficiles. En revanche, Lisa, qui est prof de maths, elle dit, moi, quand je suis allée regarder le travail de Claire, ce qui m'intéresse, c'est comment elle va se débrouiller dans la correction d'exercices. Et là, on voit tout de suite que son regard est très ciblé. Pourquoi ? Parce que là, il me semble que le travail de Claire fait écho à autre chose et à un autre type de préoccupation. Donc, effectivement, la question disciplinaire est centrale, mais moi, elle me pose question, c'est comment couvrir. Tout à l'heure, on disait, qu'est-ce qui fait qu'il y a un enseignant qui enseigne bien Montesquieu et l'autre un petit peu moins bien ? Voilà. Est-ce qu'il faut prendre chacun des points du programme ? Et alors là, on a une ressource qui n'en finit plus. Est-ce qu'il y a des choses qui sont génériques ? Qu'est-ce qui, dans la dimension didactique, est aussi générique ? Le générique, de mon point de vue, n'est pas simplement que du point de vue des gestes transversaux. Et moi, j'ai envie de dire, quand on voit Romain prendre sa classe, le fait qu'il soit professeur de langue, probablement, il y a quand même des choses qui sont spécifiques au fait qu'il soit prof de langue, parce qu'il me semble qu'un prof de PS, mais là, les collègues le diront mieux que moi, ou un prof d'art plastique, il me semble qu'il pourrait user autrement d'eux et des savoirs qu'ils ont appris. Voilà. Mais ça, c'est un débat et je crois qu'il faut qu'il ait lieu dans cette plateforme parce qu'il y a des savoirs disciplinaires. Et le fait qu'on ne le voit pas, bon, ça m'interroge beaucoup. Pour moi, quand on est chercheur et qu'on a monté ses propres vidéos.
Sans rentrer dans la répétition, la question que vous posez, ce groupe, en disant comprendre ce qu'on comprend du petit bout qu'on a extrait, qui n'est évidemment pas le réel puisque c'est une vidéo, mais vous avez raison de reprendre un peu des finesses. En tout cas, c'est pas parce qu'il y a une image qu'on comprend ce qui se passe. Je redis, pour le dire tranquillement, que souvent, quand on est entre experts de néopas à regarder des situations, et si on avait le temps, mais c'est difficile, on l'a testé l'année dernière et c'est très gourmand en temps, mais peut-être qu'on pourra trouver un espace pour le faire ensemble, regarder ensemble une vidéo qui n'a l'air de rien et se dire, mais au fait, qu'est-ce que tu comprends de la situation ? On vous demande juste de nous croire sur parole. Même entre experts, ça suscite des controverses sans fin. Et c'est toujours ce que moi je fais quand on est en formation de formateurs, mais on en parlera peut-être demain, où on prend un groupe de formateurs et on dit, bon voilà, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec Néopass ? Et la première tâche qu'on peut faire, c'est de dire, regardons ensemble une vidéo à 3 ou 4 et essayons de discuter sur ce qu'on en comprend. Et déjà, entre formateurs, la controverse est sans fin. Enfin, sans fin. Sans fond. Hein ? Et donc c'est intéressant de se dire que, en tout cas, c'est quelque chose sur lequel on est d'accord. C'est pas parce qu'il y a de la vidéo que ça permet de comprendre l'activité. Et vous avez redit, alors on n'a toujours pas donné de définition qui soit un peu opérationnelle de ce qu'on entend par activité. On pourra peut-être y revenir. Ni d'activité réelle. Mais en tout cas, tout ce qui a été dit, par exemple, je note ici, hein, la question du langage, la question de la conscientisation, la question de se mettre d'accord sur des objets où on puisse recentrer un peu la discussion sur quelque chose de partagé, c'est ça qui est intéressant. C'est pas la magie de regarder, c'est écrit, hein, ou regarder, c'est dans la vidéo. Bien évidemment, c'est pas parce que c'est en vidéo qu'on comprend du tout ce qui s'y passe. J'essaierai d'y revenir tout à l'heure. Luc.
Oui, toujours deux réactions, en tout cas dans le fil de ce qui vient d'être dit. Et Christine, je partage complètement ton point de vue. C'est-à-dire que c'est des situations ordinaires où on peut complètement passer à côté des enjeux de savoir. Donc c'est vraiment à vous, avec votre regard, de décaler le regard. Il y a quand même des critiques par rapport à Néopass, c'est quand même l'absence des élèves, vous l'avez remarqué, qui ne sont pas suffisamment présents. Ils sont présents de façon trop ensemblière ou en tout cas générale. Et c'est vrai qu'on imagine bien, on est en train de réfléchir à ce type de projet, d'avoir un certain nombre de témoignages des élèves, notamment par rapport au premier thème, là où ils sont très experts par rapport à ces situations, où ils ressentent les ambiances, ils analysent assez vite les attentes des profs. Alors, pas forcément les élèves de ces enseignants-là, mais des élèves qui pourraient nous donner le point de vue d'élèves par rapport à la situation. C'est aussi un des éléments qui manque. J'aimerais simplement dire que, pour revenir sur la question du réel, c'est sûr que, dans un premier temps, c'était un travail assez ethnographique, où on n'avait aucun moyen vidéo, je l'ai dit ce matin, et le but, c'était de filmer de l'activité ordinaire. Et j'insiste bien sur l'activité de Romain qui avait été filmée 15-20 fois, quasiment dans la même situation, avec les mêmes difficultés. J'ai essayé de repérer finalement la régularité de son expérience sur un trimestre qui était ce début de classe que vous voyez ici. Donc c'est vraiment, après ça pose la question, on va jusqu'où à montrer de l'activité ordinaire? Et on s'est empaillé avec Christine et le conseil scientifique de Néopass pour savoir jusqu'où on va par rapport à de l'activité ordinaire qui est loin d'être extraordinaire et qui est assez misérabiliste par rapport à ce qu'on donne à voir du métier. Donc ça pose une vraie question. Et quand on a commencé à discuter avec l'inspection en général, puisque cette plateforme, cette ressource est nationale, avec en tout cas, elle apparaît comme les ressources nationales par rapport à la DGESCO et le ministère de l'Éducation nationale, je me suis battu par rapport à cette question-là dans les premiers temps, parce qu'ils nous disaient « vous n'allez pas montrer de l'activité non maîtrisée, on ne peut pas faire ça ». Alors c'est pour ça qu'on a aussi fait en sorte de protéger les images et les personnes, de considérer que Romain donne son corps à la science pour montrer le niveau débutant et que lui a accepté, parce qu'il a bien compris le challenge qui était, il dit « moi je suis super content de faire ça ». Il n'y a pas un enseignant débutant en France qui ne connaisse pas Romain maintenant, dans ce rôle de débutant qui a progressé. Mais c'était l'idée de dire, tous ces jeunes profs, même s'ils sont bardés de diplômes et de connaissances académiques et scientifiques, vivent les mêmes expériences. Moi, j'étais troublé par rapport à ça. J'avais un prof de maths, un prof d'allemand, dans ce genre d'établissement, ils avaient exactement les mêmes contenus et expérientiels. Là, je suis pas bien, là, je sais pas faire, là, je veux pas crier. Mais c'était assez étourdissant de voir la ressemblance de ces quatre figures. Donc, le but, c'était de dire, on va montrer de l'activité ordinaire, parfois débutante, balbutiante, et on va montrer comment ça se déploie, comment ça se métamorphose, et que l'expérience va nous permettre on va pouvoir dénouer les fils de l'expérience pour comprendre comment, progressivement, ils se sont emparés des situations, ils ont réussi à dépasser ces niveaux de non-maîtrise. Et c'est vrai que, pour moi, la vidéo, c'est un prétexte, mais ce qui est intéressant, c'est l'évocation de l'expérience, parce que c'est dans l'expérience qu'on voit les croyances, les savoirs en action, ce qui est mobilisé dans l'action et qu'on voit comment se transforment ces jeunes profs. Alors un formateur, à mon avis, un peu compétent, c'est celui qui est capable de voir, d'aller profondément dans l'analyse des expériences professionnelles pour comprendre ces organisateurs structurants d'activité. J'arrête pour dire que finalement, le réel, oui, c'est le réel, c'est le monde phénoménal du jeune prof. Et pour moi, le réel, c'est plutôt l'expérience, vous voyez, le point de vue de l'acteur, de l'enseignant dans la situation. C'est pas tant la situation de classe qui est simplement une sorte de... On plonge dans une salle, donc il faut bien quand même qu'on ait quelques repères. L'intérêt de la vidéo, c'est que ça va quand même très vite. C'est-à-dire qu'on voit très rapidement, on discerne des ambiances, avec toujours le piège que quand on regarde une vidéo, on regarde la vidéo par rapport à son propre monde expérientiel. Donc on convoque, il y a deux expériences, il y a à la fois cette visée par rapport à une vidéo, mais on passe notre temps à convoquer nous-mêmes, nos expériences, nos jugements, nos attentes, etc. Donc il y a une double convocation, et je crois que là aussi les formateurs ont à être très prudents, parce qu'il y a une sorte de double engagement des jeunes profs devant la vidéo. C'est Romain qui est assez proche de ce qu'ils peuvent être ou ont été, mais c'est aussi eux-mêmes en action en permanence, en filigrane dans leur tête. Donc là, il faut être vigilant par rapport à ce double jeu.
Moi, j'ai une petite question par rapport à quelque chose que j'ai pas compris de quelqu'un qui a été dit par madame dans le fond. Voilà, j'ai noté ça de ce que vous avez dit. Hein, je sais pas si j'ai bien compris, mais vous avez dit quelque chose autour. Il y a ce qu'il fait, mais on voudrait aussi savoir ce qu'il pense. Et alors, en tout cas, dans notre propre fonctionnement, je voudrais insister au cas où la découverte qui a été faite par les uns ou les autres a été trop partielle pour attraper cette dimension, c'est bien que, à chaque fois, c'est bien ça qui nous intéresse en particulier, de comprendre ce qu'ils comprennent, mais aussi de comprendre ce qu'ils vivent, parce que on est très étonné du fait que, parfois, un jeune va se retrouver dans une situation très maîtrisée, très peu maîtrisée. Donc on va lui dire, faut qu'on t'explique. Or, quand on l'interroge sur, mais alors qu'est-ce qui se passe? Ah ben, il a tout à fait conscience, avec une expertise qui nous surprend, que ben, ça va pas du tout pour ça et ça et ça et ça. C'est-à-dire qu'on on a envie de lui dire, ben, si tu le sais, alors pourquoi? Et c'est là où on rentre de plein fouet dans la question de la formation, c'est-à-dire ce qu'on fait n'est qu'une toute petite partie de notre activité. Hein, j'essaierai d'en parler tout à l'heure si on a deux minutes, mais peut-être je vous laisse reprendre la parole.
C'était juste la petite précision, c'est que l'interview, il est fait à froid après. Donc, par exemple, elle peut... Voilà, moi, j'étais sur Guillemette, enfin, je pense. Elle était très énergique, pleine de feu dans son action, dans sa séquence. Mais après, elle l'explique avec très pacifié, voilà, très calme. Alors que ce qui serait intéressant, c'est de pouvoir déchiffrer ce qu'elle vit au niveau émotionnel, par exemple, au niveau de ce qui lui traverse l'esprit, même des remarques spontanées qu'elle aurait envie de faire. Enfin, je sais pas. Vous voyez, on pourrait imaginer ça, quoi.
Alors, sur la question de l'émotion, je pense que moi, ce que je retiens de votre proposition, c'est, mais peut-être les collègues peuvent répondre autant que moi, quid de la question de l'émotion dans les échanges, dans ce qu'on appelle dans notre jargon les autoconfrontations. Alors, c'est vrai que la situation, elle est distanciée, mais est-ce que l'émotion, est-ce que l'affect, il reste présent dans les entretiens. Est-ce que vous pouvez dire les collègues qui passent beaucoup de temps à en faire? Alors vous avez Guillemette, ça va jusqu'à 5 ans plus tard. Hein, c'est-à-dire que vous allez retrouver cette collègue-là 5 ans plus tard, et même on l'a eu il n'y a pas très longtemps. Mais peut-être juste, on a le temps d'écouter ça. Donc tu peux juste représenter ce qui se passe là dans cet étage-là, hein. Aider, oui, mais jusqu'où? Tu peux dire ce qui est en question, Christine?
Ils sont d'origine différente, des enfants dans ce collège maghrébin, des enfants gitans. Il y a tout un problème là qui se crée autour de ces questions-là que je vais laisser de côté. Bon, il y a un élève qui est devant, qu'elle a mis devant, qui chahute, et elle donne une consigne. L'élève ne fait rien, et donc au moment où elle passe pour aller voir ce qui se passe et comment les élèves se sont emparés de la consigne, elle se penche, elle lui dit « tu as fait quelque chose ?»« Non, j'ai rien fait. » Elle lui dit « bah, de toute façon, je ne t'aide plus. » Voilà. Donc là, on est dans cette situation qui va générer beaucoup de conflits au niveau des collègues formateurs et des enseignants, avec cette controverse de savoir jusqu'où peut-on aider un élève et à quel... Enfin, est-ce qu'un enseignant a le droit ou pas de dire à un élève « toi, je ne t'aide plus ». Donc là, je vous passe, voilà, hein, la voix là, donc là.
Je vous montre juste ce morceau-là. On voit la situation de classe, l'affectif, il y a de l'idéologie, il y a de tout ça dans... J'en prie.
En fait, on est arrivé à cette remarque parce qu'on était parti sur le fait que chaque vidéo n'avait pas la même valeur, entre guillemets, pour nous. Et donc, par exemple, le film en classe, c'était presque le plus pur, quoi. Vous voyez, parce qu'après, dans les avis des profs qui ont expérimenté, il y en a, c'est beaucoup d'opinions, voire de jugements. On ne sait pas si ça apporte toujours, voilà. Et puis, par exemple, les experts, les chercheurs, ça nous semblait aussi un apport intéressant, mais on aurait aimé une vision un peu concrète de l'apport de l'expert, par exemple. Celui de gauche, là, dans les profs expérimentés, donc qui est très engagé, là, par exemple, il a un conseil plus pédagogique, une analyse, par exemple, sur l'autonomie, c'était assez visible, où il disait, il explique quel est le principe du travail en autonomie, pour prendre du recul.
Pardon.
Il prend plus du recul en disant, le travail en autonomie, c'est ce principe-là. Alors que les autres, ils disent, là, il n'en peut plus, c'est des commentaires perso, quoi. Donc, c'est alors différent, quoi.
Cette question, elle est permanente dans Néopass, hein, c'est-à-dire que à partir du moment où on demande l'avis de quelqu'un, qu'il soit débutant, expérimenté, formateur, chercheur, quand est-ce que ce qu'il dit est du registre de l'opinion, de la croyance, de l'expérience, du parti pris idéologique, ben ça c'est assez rarement démêlé. Et en tout cas, nous, on a gardé des choses qui sont de ces différents registres, parce que parfois, il existe des discours de formateurs qui sont juste des discours d'opinion, ou d'expérience, ou d'idéologie. Et pour un formateur, y compris, démêler ce qui, dans nos conseils, relève de nos croyances ou relève de je suis sûr que si je te donne ce conseil, alors je vais t'aider à mieux faire ce que tu as à faire, c'est un sacré travail pour des collectifs de formateurs. Et on pense que dans Néopass, il y a aussi de quoi s'occuper pas mal pour des collectifs de formateurs qui auraient envie de s'empailler un peu sur leur métier de formateur. Christine.
Ce que nous avons tenté de faire, et bon, je ne sais pas si ça apparaît, c'est aussi de montrer que finalement le métier, pour reprendre vos termes, enfin, est finalement polyphonique. C'est-à-dire que le métier se parle à plusieurs voix, que très souvent il y a des contradictions, et je crois que les jeunes enseignants, ils se heurtent à ça en permanence. Sans arrêt, je crois qu'ils viennent nous dire en disant « mais vous dites ça alors que votre collègue a dit exactement l'inverse ». Où on nous dit ça à l'UFM, mais sur le terrain, on nous dit autre chose. Et ce que nous avons vraiment voulu essayer de mettre en scène, de didactiser avec Laurence, c'est vraiment, et Patrick, puisqu'on a travaillé à plusieurs, bien sûr, hein, c'est de rendre compte de cette polyphonie. C'est-à-dire là, pour le coup, hein, la bonne pratique, on voit bien que là, la bonne pratique, eh ben, on reste, on est sur Jean-Pierre qui dit... D'un point de vue de l'éthique, et elle est fonctionnaire de la République, elle ne peut pas dire à un élève « je ne t'aide pas ». Et la métaphore de la noyade, moi ce que j'ai appris, elle dit ce que j'ai appris en 3 ans, hein, c'est que je ne suis pas Zorro. Et ce que je sais aujourd'hui, c'est que je ne peux pas tous les sauver. Ça, ce bout-là, je peux vous dire que dans notre groupe, il a fait énormément controverse. Énormément controverse.
Est-ce qu'on a le droit de mettre ça dans Néopass ?
Hein, on était venu à se dire entre nous, est-ce que c'est néopassable ? Et Guillemette, qui à ce moment-là était en passe de devenir IPR, nous avons eu aussi peur pour sa carrière, hein, inspecteur, inspectrice d'histoire-géographie. Et donc, vous voyez bien que j'essaye aussi dans le débat de lui dire, mais bon, tu fais ça, mais à côté, il y a des dispositifs. Non, il n'y a pas de dispositif, on est vraiment seul. Vous voyez, elle insiste. Et au moment où je lui ai fait part des débats qu'il y avait au sein même de notre groupe scientifique, elle a maintenu sa position en disant « je veux que cela figure et je suis prête à renoncer à mon poste IPR si ça venait à me mettre en danger ». Au point que nous avons travaillé avec elle l'été, juste avant de mettre la plateforme en route, juste avant.
Parce que, en fait, on a des images d'elle 5 ans, 6 ans avant. Donc aujourd'hui, elle a fait du chemin, mais elle ne renonce pas à ce qu'elle était à ce moment-là. Elle dit « je ne veux pas me ripolliner en super instit ou super prof sous prétexte que je vais devenir inspecteur ». Donc elle accepte ça. Donc fini, je suis en train de montrer.
Oui, donc ensuite, ben, elle accepte de revenir sur cette question, qui est une question d'éthique. Mais voilà, sans revenir dans le détail, ce que nous avons essayé de rendre compte, c'est, je crois, sur la partie verticale, je crois que c'était ça, et c'est un petit peu ce qui distingue du TME, c'est vraiment de partir des dilemmes professionnels. Tout à l'heure... Luc a parlé de conservatoire, de laboratoire. Bon, nous, on essaye aussi de voir un petit peu comment... Peut-être un référentiel de dilemmes professionnels. Hein. Des dilemmes professionnels, nous, ça nous plaît bien, cette idée, parce que ce ne sont pas que des difficultés. La difficulté, pour moi, hein, ça n'engage que moi, ça serait de voir Guillemette, Claire ou Alban qui quittent la classe. Voilà. Donc souvent, on nous a dit « mais qu'est-ce que vous avez comme intérêt à montrer des difficultés ?» Mais de notre point de vue, ce ne sont pas des difficultés. Ce ne sont pas des empêchements, enfin, des difficultés au sens où les gens ne peuvent pas faire leur métier. Ils sont empêchés, mais dans ces empêchements, ils font quand même des choix, ils trouvent quand même des réponses au point de faire fonctionner la classe. Évidemment, sur le plan didactique, peut-être même pédagogique, c'est discutable. En attendant, cette classe est en état de marche. Alors là encore, comme le dit très bien Luc, hein, il y a des structurations provisoires, des configurations provisoires qui, avec accompagnement, vont être amenées à être transformées. Et c'est bien ce qu'on essaye de montrer aussi, enfin aussi bien dans le thème 1 que dans le thème 2 et puis dans les autres thèmes. Hein, c'est vraiment de ce développement de l'expérience professionnelle. Mais ce que l'on voulait aussi absolument, ce en quoi on tenait, c'est de rendre public l'idée que ce développement de l'expérience, c'est pas une belle histoire qui finit bien. Je veux dire, bon, mais tant mieux, hein, Guillemette, elle est IPR. D'ailleurs, elle a choisi de ne pas l'être, hein, d'ailleurs. Elle a renoncé à son poste. Mais cela dit, c'est pas une histoire qui finit bien. Si on regarde Guillemette d'un bout à l'autre de ses 198 extraits vidéo, eh bien, on voit des retours en arrière, y compris 4 ans plus tard. C'est-à-dire que là où, un an après, Guillemette, finalement, on sentait qu'elle avait acquis une certaine robustesse dans la présentation des tâches qu'elle soumet aux élèves. Eh bien, on voit parfois que 3 ans après, eh bien, elle a régressé. L'idée aussi, c'était de dire le développement, c'est pas un bond en avant. Il y a des allers-retours, il y a parfois même des régressions importantes. Ça fait partie du développement et c'est ce que l'on voit là. Voilà. Donc l'idée, c'est est-ce que l'on montre ça? C'est-à-dire, est-ce qu'on s'efforce de donner cette vision un petit peu, bon, mais pas toujours facile, hein, du métier, ou est-ce qu'au contraire, on lisse les choses? Bon, nous, notre choix avec Laurent, c'est de dire, on montre ces éléments d'aller-retour dans le développement de l'expérience, et on montre aussi cette espèce de polyphonie, et comme dit Fred Soja avec lequel on travaille, hein, qui parfois se transforme en cacophonie. Tout est son contraire. Et je crois que les formateurs, les enseignants, que nous sommes tous, eh bien, nous avons affaire à cette cacophonie. On a à trancher dans les systèmes de valeurs, dans les idéologies, comme dit le collègue. On a parfois à subordonner des tâches didactiques à des enjeux plus ergonomiques. Voilà. Et on le voit chez les expérimentés. C'est-à-dire qu'on peut très bien être un professeur expérimenté et demain se retrouver avec une tâche en particulier et se retrouver dans la position d'un néo. Et ça, c'est aussi très intéressant. Je veux dire, l'état de néo et de ses difficultés, il n'est pas réservé au néo.
Donc, quand vous retournerez en profondeur, hein, on va clore là sur cette partie, mais on a y compris retourné l'été dernier cette discussion où Guillemette et ce collègue s'étaient pris à partie à distance, hein, où c'était lui qui disait « tu peux pas faire ça, tu peux pas dire ça », etc. Et on les a remis en présence pour qu'ils aient cette discussion. Hein, vous verrez, elle est présente dans pourquoi elle justifie le « des fois, je peux dire « je ne t'aide plus » et ça n'est pas forcément condamner l'élève. Elle explique ça. Vous dire aussi que donc, on a accepté que ce politiquement incorrect, il soit présent. Et vous l'avez dit tout à l'heure, ça peut mettre en difficulté des formateurs. Lorsque, par exemple, dans les tâches qui est fait par Philippe Vérune, qui n'est pas là aujourd'hui, lorsque on montre une jeune enseignante en train de faire des affichages, eh bien, on a mis en scène des témoignages d'expérimentés qui disent que, en fait, les solutions qu'ils ont pour faire face à cette situation sont contradictoires. Hein, entre un qui dit « Oh, j'adore ces situations, c'est génial et tout », et l'autre qui dit « Non, mais ça me saoule, c'est les conneries que t'apprends en formation, mais ça fait longtemps que j'ai arrêté de faire ça ». Et donc ça, on a accepté que ça soit présent dans la plateforme pour que cette polyphonie du métier, elle soit présente. Et au risque, hein, comme on l'a bien dit par rapport à ce qui se disait tout à l'heure sur les didactiques, qu'on montre des usages, des savoirs disciplinaires, des usages des outils, des usages de l'écrit, qui soient des usages critiquables du point de vue de la didactique, mais qu'on va juger qui peuvent être à un moment donné des ressources dans des équilibres précaires, pour peu qu'on ne les laisse pas là, mais qui peuvent être quelque chose qu'on va oser indiquer. Et on voit bien que pour un formateur, pour un inspecteur, ça peut poser problème, parce que ce n'est pas forcément des discours qu'on a dans les instituts de formation.
Oui. Deux, trois petits points très rapidement. C'est un peu humoristique, mais vous avez entendu des accents dans notre... avec nos professeurs de Marseille, à Toulouse, à Lille. Donc ça chante, les accents sont différents. Et je crois que ça montre toute la diversité du métier, hein, dans les différentes provinces et académies. Il nous manque simplement l'accent de nos amis belges, hein, qu'il va falloir envisager un jour. Mais plus largement, vous l'avez compris, c'est au-delà des accents, c'est aussi une sorte de plateforme sur l'analyse du travail, avec des théories de l'action, des chercheurs qui ne sont pas exactement identiques par rapport au projet, et les ressources sont pas forcément également complètement identiques. Vous avez peut-être vu ça. Je ne sais pas si ça vous a semblé, si ça vous a perturbé ou pas, mais entre par exemple le thème 1, le thème 2, le thème 3, il y a donc des théories, des présupposés théoriques qui sont différents. Ça crée des variations même dans la présentation des données. On n'a pas exactement les mêmes méthodologies d'analyse. Donc peut-être que ça vous a échappé, ou j'espère que ça peut être de temps en temps transparent, parce que le but c'est aussi d'avoir une certaine unité d'ensemble, mais malgré tout il y a de la variation, et on a voulu en tout cas faire en sorte que les chercheurs se sentent à l'aise avec cette plateforme en sachant qu'on avait une sorte quand même de cahier des charges assez clair de ce qu'on voulait, l'activité de classe, le décor, l'envers du décor, c'est-à-dire l'expérience professionnelle, et l'ensemble de ces témoignages. Et par contre, ce qui est pas toujours très clair, c'est qu'on a des témoignages de débutants qui pourraient être parfois des témoignages de plus chevronnés. Parfois, les plus chevronnés ont des controverses qui seraient peut-être celles des chercheurs. Donc, on n'est pas toujours très clair d'un thème à l'autre, d'une situation à l'autre, par rapport à la contribution de chacun. Parce qu'il nous semble que si, dans le thème, les témoignages, par exemple, des professeurs chevronnés, il y a de la doxa, il y a des croyances qui sont idéologiques, c'est normal. Enfin, je pense que c'est bien l'épaisseur du métier qui est là. Par contre, on peut imaginer que les chercheurs, il y a un certain nombre d'étages qui vont être faits, notamment sur le thème 1. Il faut qu'ils apportent autre chose, qu'ils décalent le regard, qu'ils apportent une valeur ajoutée par rapport à la façon de pouvoir parler du métier. Donc il faut que chacun trouve sa place, et ce n'est pas toujours évident. Auto-formation, on l'a souligné, je pense que je n'en dirai pas plus, parce que Simon, tu vas l'aborder. Pour nous, ce n'est pas du tout un outil d'auto-formation, mais c'est un outil moderne de nouvelle formation hybride, où il y a du présentiel, il y a de l'accompagnement, il y a peut-être du travail à distance, seul, devant ces vidéos, par exemple, sur une plateforme, sur un ordinateur, sur un iPhone, etc. Donc on est sur des nouvelles modalités hybrides où il faut accompagner les débutants. Mais pour nous, l'auto-formation a vraiment ses limites.